Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bonjour mesdames et messieurs, vous avez peut-être été surpris de trouver des questionnaires à votre entrée dans la salle et qu'on cherche ainsi à vous faire travailler. En réalité, je vous précise, s'il en est besoin, que le but est de mieux vous connaître et d'être mieux armé pour répondre à une question qu'on nous pose souvent et à laquelle on répond de manière assez vague, mais qui vient suivre les cours du Collège de France. Il y a ceux qui les suivent sur Internet, podcast à la radio, etc. Et puis, il y a ceux qui bravent les frimas, comme aujourd'hui, pour venir sur place. Alors, qui sont-ils ? Voilà la question que ce questionnaire tend à éclairer, mais cela va sans dire et encore mieux en le disant. Il va de pair avec le principe traditionnel et sacro-saint du collège que l'accès aux cours est entièrement libre. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que ces questionnaires sont anonymes et j'ajouterai qu'il est facultatif d'y répondre. Alors, cela étant dit, entrons, si vous voulez bien, dans le vif du sujet. J'ai développé la dernière fois l'idée que le corps des janissaires, la fameuse infanterie d'esclaves mercenaires du sultan ottoman, n'avait pas eu, dès l'origine, dans la seconde moitié du XIVe siècle, le poids numérique et l'importance militaire qu'il acquerra par la suite, surtout au XVe et dans la première moitié du XVIe siècle. Il n'est devenu que peu à peu, dans des contextes internationaux en évolution, le fer de lance de la conquête ottomane et un groupe de pression formidable au sein de l'État. Mais j'ai également noté un second trait d'évolution. Peu de temps après sa création, une vingtaine d'années peut-être, mais ce n'est là qu'une hypothèse que je fais, le corps a été dédoublé par un corps de cadets, d'aspirants janissaires, de jeunes esclaves du souverain employés à diverses tâches destinées à les préparer physiquement et mentalement à devenir des janissaires. Et on les a appelés les Adjemi Olan, un terme que je serai appelé à répéter un grand nombre de fois et que j'ai écrit, comme vous voyez, d'une part avec l'orthographe phonétique française et d'autre part, j'ai mis entre parenthèses la forme en alphabet turc moderne de ce terme. Les Adjemi Olan, ce sont les garçons étrangers et cette expression se réfère au fait qu'ils n'étaient pas d'origine turque ni musulmane. Comme cela avait été le cas pour les janissaires, dont la création, si vous vous en souvenez, selon la légende, avait été parrainée par le saint Hadja Bektashvili, la création du corps des Adjemi Olan fut reliée, elle aussi, à une autre sainte figure, en l'occurrence celle d'Alaeddin Esved, dit Kara Hodja. Il eut la prémonition du bonnet de feutre jaune dont les membres de ce corps devaient être coiffés. De cette façon, la création de ce corps était légitimée et il bénéficierait des pouvoirs charismatiques du saint qui avait présidé à sa naissance. D'abord affecté au service des bateaux transportant des troupes d'Anatolie en Roumélie à travers le détroit des Dardanelles, ils furent d'abord basés à Gallipoli. Gelibolu en turc. Mais après la conquête de Constantinople en 1453, un second détachement de ce corps fut établi dans cette nouvelle capitale, beaucoup plus important en nombre et affecté, comme nous allons le voir, à des tâches beaucoup plus diversifiées. Ce corps est divisé en 30 compagnies ou beluques et a à sa tête un officier auquel on donne le nom d'Aga d'Istanbul. Est promu à ce grade soit l'ancien chef des Adjemiolan de Gallipoli, l'Aga de Gelibolu, soit un des hauts officiers du corps des Janissaires, tant il est vrai que le corps des Adjemiolan reste et restera dans la dépendance du corps des Janissaires, le chef suprême de ces derniers, l'Aga des Janissaires, coiffant l'ensemble des deux corps. Au départ, en 1453, les Adjemiolan d'Istanbul étaient au nombre de 3000, nous dit-on. Par la suite, leur nombre va augmenter parallèlement à celui des Janissaires dont ils constituent le vivier. En 1527, au début du règne de Soliman le Magnifique, qui avait vu un certain tassement dans le nombre des Janissaires, il y a 7886 Janissaires pour, si je peux dire, 3553 Adjemiolan. Vous voyez que nous avons des indications précises. En 1547, les Adjemiolan seront au nombre de 5840. 20 ans plus tard, en 1567, au début du règne du successeur de Soliman le Magnifique, Selim II, il y aura 12798 Janissaires pour 7745 Adjemiolan. Depuis que la plus grosse part des Adjemiolan est casernée à Istanbul, leur rôle, l'utilisation qu'on en fait, comme je vous l'annonçais, a quelque peu changé par rapport à leur début à Gallipoli. On continue à les utiliser sur les bateaux de transport de l'État. Chacun des capitaines des 30 compagnies, des 30 beluques constituant le corps, s'est en vue attribuer un ou deux bateaux. Il s'agit en l'occurrence de bateaux transportant des troupes de Roumélie en Anatolie par Üsküdar, le port situé en face d'Istanbul à la sortie du Bosphore dans la mer de Marmara. On continue à désigner les services tournant autour des bateaux, c'est-à-dire les travaux de construction de ces bateaux, de manutention, les tâches liées à la navigation, tout cela, toutes ces fonctions sont désignées par un terme, le terme de torba, un mot turc qui signifiait et signifie d'ailleurs encore aujourd'hui sac. Le torba, c'est un sac. Et chacun de ces jeunes manutentionnaires devait être pourvu, je suppose, d'un tel sac. C'est là le service de base demandé aux Adjemiolan, qu'on désigne parfois aussi comme torba olanlare, c'est-à-dire littéralement les garçons du sac. Mais bien d'autres tâches vont apparaître et elles vont se multiplier à partir du moment où le gros du corps est établi à Istanbul. Aussitôt après la conquête de cette ville, Mehmed II, dont la capitale reste encore pour quelques années à Edirne, Andrinople en Thrace, Mehmed II se fait construire donc dans sa nouvelle conquête un vaste palais occupant une surface de 33 hectares à l'emplacement d'un ancien forum byzantin, le Forum du Taureau, édifié par l'empereur Théodose. Ce palais est achevé entre 1455 et 1458. Or, il ne sera pratiquement pas utilisé par Mehmed II, qui changera d'avis en matière de palais et fera construire un nouveau palais sur un autre site de la ville, l'ancienne acropole de Byzance, l'actuelle pointe du Sérail, et ce palais, ce sera le palais de Topkapı, qu'on désignera aussi comme le nouveau palais, Sérail Cedid, par opposition au vieux palais, à l'ancien palais, qui servira désormais à abriter les harems, c'est-à-dire les concubines et autres parentes des anciens sultans. Eh bien, dès la construction de l'ancien palais à Istanbul, on a eu l'idée d'utiliser nos Acemi Olan pour le livrer en bois de chauffage, odun en turc. On les utilisera également pour fournir les palais royaux en général en une denrée d'une autre nature que le bois de chauffage, d'une nature même opposée à certains égards, la glace prélevée sur les sommets de l'Olympe de Bitini, de l'Uludae, dans la région de Bursa. Et c'est cette glace qui permettait à la saison chaude de pourvoir les habitants et les habitantes des palais impériaux en boissons et en aliments rafraîchis. Des bateaux seront ainsi spécialement aménagés pour le transport de la glace, des bouz kayıkları, comme on les appellera en turc, et sur ces bouz kayıkları, ce sont encore les Acemi Olan qui vont servir. D'autre part, une des principales utilisations de ces recrues, à côté du service du torba dont je vous parlais, tenait à des travaux de jardinage. Nombre des Acemi Olan étaient ainsi des jardiniers ou des bostancı, comme on les appelle en ottoman, exerçant leur activité dans les jardins des différents palais impériaux d'Istanbul, d'Üsküdar et également d'Edirne. Par exemple, nous savons qu'en 1577, 467 Acemi Olan seront inscrits comme jardiniers du palais d'Edirne. Vous voyez, ça, c'est un des effets des archives ottomanes, qu'à côté de grandes lacunes, nous tombons quelquefois sur des informations extrêmement précises, vous voyez, comme ce dénombrement des jardins, des Olan, des garçons employés dans les jardins du palais d'Edirne. La proportion très importante d'Acemi Olan ainsi utilisée dans les jardins des sultans et des princesses de leur entourage, s'explique par deux raisons. D'abord, le nombre toujours croissant de ces jardins et la nombreuse main-d'œuvre que nécessitait leur entretien. Et d'autre part, le degré de perfection qu'ils devaient atteindre pour le plaisir et le prestige de leurs propriétaires. Chacun sait, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup de travail à fournir pour entretenir un jardin, et lorsqu'il s'agit de jardins immenses, c'est encore beaucoup plus vrai. Ces jardins étaient en fait de plusieurs types. Certains n'étaient que des terrains de chasse qui, pour autant, n'étaient pas laissés à l'état sauvage. Outre les pavillons de chasse qu'on édifiait en leur sein, on y soignait attentivement les arbres et, si nécessaire, on en plantait de nouveaux. D'autres jardins, correspondant davantage à l'idée que nous pouvons nous faire d'un jardin, d'autres jardins étaient des lieux d'agrément, comportant généralement un sérail, un palais, de même que des pavillons, des kiosques ou kiosques, comme on dit en français, disséminés dans ces jardins, ainsi que des fontaines, des bassins et des jets d'eau. On les plantait d'arbres et de fleurs en abondance, généralement d'ailleurs de façon irrégulière, mais on y cultivait également des fruits et des légumes qu'on récoltait soigneusement. Le grand architecte Sinan, Mimar Sinan, connu pour, en particulier pour ses grandes mosquées, est crédité de la conception de plusieurs de ces jardins sous le règne de Soliman le Magnifique et de ses successeurs, comme par exemple le jardin d'Iskender Tchelebi, qui avait été initialement créé à la demande de ce richissime contrôleur des finances qu'était Iskender Tchelebi et qui passera ensuite dans le domaine impérial. Il y avait de même le jardin de Halkale, qui était fameux, et le jardin impérial du Skudar. Dans ce dernier jardin, Soliman avait fait bâtir par Sinan en 1555 un sérail de villégiature. Par la suite, les sultans Selim II, Mourad III et d'autres sultans y firent construire des pavillons dont un auteur du XVIIe siècle, Eremia Tchelebi, nous dit qu'ils étaient plus beaux les uns que les autres, ces pavillons. Et puis, il y avait aussi le jardin du Fener, dont le nom évoque bien autre chose aujourd'hui, n'est-ce pas, puisque ce nom, c'est Fenerbahçe, nom d'une fameuse équipe de foot turque. Je crois bien que c'est du foot. Eh bien, ce nom provient du jardin impérial qui avait été établi là. C'est un autre jardin dans lequel Sinan avait également construit un sérail. Le voyageur Guillaume Grelot, qui est un voyageur écrivant dans la seconde moitié du XVIIe siècle, soit une centaine d'années après la création de ce jardin de Fener, mentionne la régularité des allées, contraire, selon lui, à ce qui était habituellement pratiqué dans les jardins des sultans, où arbres et fleurs étaient au contraire plantés de façon irrégulière. Il y avait là, poursuit Grelot, des plates-bandes composées avec beaucoup de soin et de goût. Le pavillon qui se trouvait au milieu du jardin était une construction de plans carrés à plusieurs colonnes et galeries. À l'intérieur avaient été placés des meubles à la turque. À l'extérieur se trouvait un bassin muni d'un jet d'eau. Une autre catégorie de jardin, enfin, correspondait à de véritables exploitations agricoles faites de vergers et de potagers sur des surfaces parfois immenses. Ils étaient destinés à l'approvisionnement du palais en fruits et en légumes, mais la production pouvait être si importante qu'il y avait des surplus qu'on ne dédaignait pas de vendre en vertu du principe selon lequel il n'y a pas de petit profit. Busbecq, Ghislain de Busbecq, l'ambassadeur de Ferdinand de Habsbourg, évoque dans ses lettres, évoque ce sujet en traçant le portrait du grand vizir Rustem Pacha. Ce Rustem Pacha, à l'origine un petit porcher croate, qui était parvenu au rang de grand vizir, c'est-à-dire au sommet de l'État. Eh bien, Busbecq écrit à son propos, il n'aurait pas été indigne de ce degré de dignité s'il n'avait été souillé par l'infamie de la cupidité. Mais pour son maître, poursuit-il, il transforma ce même vice en vertu. Sous la direction de Rustem, aucun profit, même infime, ne fut négligé. Il alla jusqu'à récolter de l'argent, et nous en revenons à notre sujet, grâce à la vente des plantes, des roses et des violettes qui poussaient dans les jardins du prince. Le même Busbecq semble aller un peu loin, emporté par sa verve et aussi son ressentiment contre Rustem Pacha, avec lequel il avait eu de très mauvaises relations, quand il ajoute « Il y a, dans le palais, une chambre privée où sont conservées les sommes d'argent accumulées par Rustem et qui porte cette inscription « Argent acquis grâce aux soins scrupuleux de Rustem ». Quoi qu'il en soit, de ce trait rapporté par Busbecq, exploitation rentable ou lieu de délicieux farniente, les jardins impériaux nécessitaient une main-d'œuvre considérable et, je dirais, des armées de jardiniers, et c'était précisément une des finalités du corps des Adjemi Ollane que d'y pourvoir. Mais les Ollane servaient à bien d'autres usages encore et remplissaient bien d'autres fonctions. La documentation archivistique, notamment les ordres du pouvoir central, les firmans, comme on les appelle, adressés à l'aga des janissaires, chef suprême, comme je l'ai dit, des Adjemi Ollane, font apparaître ces derniers dans toutes sortes de contextes professionnels. Ce sont eux, par exemple, qui accomplissent toutes les tâches matérielles concourant à la vie des palais, les palais impériaux, mais aussi ces palais-écoles où sont formés, comme nous le verrons plus tard, leurs camarades plus brillants, l'élite des recrues des firmets, du ramassage des garçons chrétiens, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les Ich Ollane, les garçons de l'intérieur. Eh bien, dans ces palais où sont soigneusement éduqués les garçons de l'intérieur, qui accomplit les besognes matérielles, ce sont les Adjemi Ollane. On voit qu'ils servent de blanchisseurs, de porte-haches pour couper le bois de chauffage, de boulanger, de cuisinier. Selon l'auteur dont je vous parlais la semaine dernière, l'auteur anonyme des règlements des janissaires, des cavanines, il y avait ainsi, à son époque, c'est-à-dire à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, 30 à 40 Adjemi Ollane, respectivement, dans les palais-écoles de Galatasaray et d'Ibrahim Pacha. Ce palais de Galatasaray, qui a donné son nom, comme vous savez, depuis le XIXe siècle, à un lycée francophone d'Istanbul, avait été antérieurement et cela remonte à l'époque de Bayezid II, une école pour les garçons, pour les pages du palais. On les voit donc, nos Adjemiolan, à travers la documentation, apporter au palais du bois de chauffage, comme je l'ai dit, qu'ils vont chercher dans la région de Nicomédie, d'Iznikmit, mais aussi dans des zones plus éloignées des bords de la Méditerranée et de la mer Noire. Ce sont également eux qui apportent aux cuisines du palais les fruits d'Izmir, de Smyrne. Certains d'entre eux travaillent dans les cuisines, comme je l'ai déjà dit, ou aussi dans les confiseries, les helva hanai des palais, tandis que d'autres sont placés au service des grands fauconniers chargés de la volière impériale, n'est-ce pas, dans laquelle sont entretenus les oiseaux de chasse du sultan. D'autre part encore, on leur fait transporter des matériaux de construction destinés à l'entrepôt impérial de bois de charpente, à l'arsenal de Galata ou encore à la fabrique de charrettes impériales où l'on voit qu'ils étaient également employés. Construit-on une prison à Istanbul, comme c'est le cas en 1555, c'est à eux qu'on fera transporter les pierres, le sable et tous les autres matériaux nécessaires à la construction. En 1603-1604, 12 Adjemiolan travaillent à la poudrerie d'Istanbul. La poudrerie, Karanei Barut Siha, et 10 autres travaillent dans une autre poudrerie mentionnée dans la ville, dans le quartier de Kaot Hanai. Dans l'arsenal de Gelibolu et dans celui de Kasım Pasha à Istanbul, les Adjemiolan servent de kalfa, de charpentiers, de fabricants de rames et de poulies, de forgerons, de poseurs d'étoupes. Un autre renseignement nous est fourni par l'auteur anonyme des règlements des janissaires. Il désigne un endroit de Galata qu'il appelle le quai des Kalfa, Kalafat Yeri. On y entreposait, nous dit-il, les outils, le fer et tous les autres matériaux nécessaires au calfatage des bateaux. L'atmosphère n'y avait rien de paisible. Un officier était même spécialement chargé d'y faire la police et de veiller à ce que les Adjemiolan qui y travaillaient n'y maltraitent pas les passants, ne boivent pas de vin et surtout ne se bagarrent pas entre eux. Par ailleurs, ces jeunes gens travaillaient aussi bien à la maintenance du gigantesque réseau de canalisation alimentant en eau les fontaines d'Istanbul. D'autres encore, vous voyez, l'infinie variété des tâches auxquelles on les employait, d'autres encore chez lesquels on avait apparemment remarqué des dispositions particulières, sont placés comme apprentis dans les différents ateliers de l'État. On voit ainsi, dans un ordre de 1564, où il s'agit de répondre au manque de canonniers signalé au gouvernement par le chef des canonniers, le Topçe Başı, qu'il est commandé à l'aga des janissaires de désigner 25 Adjemiolan pour combler cette lacune d'effectifs. Ils seront remis au chef des canonniers avec toutes les pièces justificatives afférentes, étant entendu que toutes ces affectations d'Adjemi Olan à différentes fonctions s'accompagnaient de procédures bureaucratiques permettant de savoir où était et ce que faisait chacun d'entre eux. Toute une paperasse, par conséquent, accompagnait les déplacements et les affectations successives de ces Adjemi Olan. De ces jeunes gens remis au chef des canonniers, celui-ci fera des topche shagird, c'est-à-dire des apprentis canonniers. On emploie ce terme persan de shagird pour désigner les apprentis dans les différents métiers artisanaux. Dans un firman similaire de 1566, il est enjoint à l'aga des janissaires de recruter 10 Olan, cette fois pour en faire des apprentis selliers. Sarach, Shagird Liyi Ichun, à la grande écurie du palais. Donc, ils devront fabriquer des selles pour les chevaux. Et une note de chancellerie adjointe à cet ordre indique que l'ordre a été remis à l'un des selliers du palais, vraisemblablement pour qu'il aille le porter à l'aga des janissaires et que celui-ci lui donne satisfaction en lui remettant les 10 Olan prévus. Et l'ordre en question se termine par cette formule martiale, istidam oluna, c'est-à-dire, une fois qu'ils auront été désignés, remis au cellier, qu'on les utilise, qu'on se serve d'eux. Une autre fois, en décembre 1564, toujours pour répondre à des besoins sur lesquels les autorités ont été alertées, l'aga des janissaires doit fournir cette fois 8 Adjemi Olan pour qu'on en fasse des apprentis dans un autre secteur artisanal, la fabrique des licous et des effets de poils de chèvre utilisés pour les chevaux. Et ce sont les termes, je le signale pour ceux que ça intéresse, pour désigner ces spécialités, on parle de yularje et fabricant de licou et de muitab, fabricant d'effets faits en poils de chèvre. Il est bien précisé que l'aga devrait les sélectionner, ces Adjemi Olan, parmi ceux qui sont, je cite, aptes à un travail artisanal. Et l'expression en ottoman, c'est sanata kabil. Tous n'étaient pas manifestement prédisposés de la même façon à être initiés à ces techniques artisanales particulières. D'autres encore, chez lesquels on a décelé des qualités plus ou moins exceptionnelles, adresse manuelle, savoir-faire, habileté, et il ne peut s'agir, en l'occurrence, d'un acquis familial, puisque ces garçons sont pour la plupart des fils de paysans et que, comme nous le verrons, il était bien prescrit lors des opérations de défchirmet, de ramassage des garçons, il était bien prescrit de ne pas prendre des fils d'artisans parce qu'on considérait qu'ils n'auraient pas la mentalité souhaitable pour faire de bons Adjemi Olan puis de bons janissaires. Donc, vous voyez, ces garçons chez lesquels on a décelé des aptitudes, au moins relatives, pour tel ou tel métier, ce n'est pas par hérédité, n'est-ce pas, ou par acquis familial qu'ils avaient pu disposer de ces facultés. Eh bien, ceux qui paraissaient particulièrement doués, comme je le disais, on les verse dans les multiples ateliers du palais, afin qu'ils soient intégrés à une catégorie particulièrement prestigieuse d'artisans, ceux qu'on appelle les artisans du palais, les artisans qui travaillent pour le sultan, Heli Hirefi Hassa. Certains ne rejoignent ces ateliers qu'après avoir connu d'autres affectations préalablement. Et notamment, certains sont allés jusqu'à entrer dans le corps des janissaires avant que leur talent, ayant été reconnu avec le temps, on les verse dans tel ou tel atelier du palais. Mais d'autres, de façon remarquable, sont versés d'emblée dans les ateliers du palais, aussitôt après avoir, en somme, été recrutés dans le cadre du Defshirmeh. Et par conséquent, sans avoir jamais rien fait d'autre au préalable. Dans ce cas, ils sont d'abord inscrits comme apprentis dans une spécialité artisanale donnée, avec la solde ordinaire d'un Nadjemi Olan. Je mentionnais la semaine dernière, n'est-ce pas, le montant de cette somme, un aspre par jour. Certaines auditrices m'ont demandé qu'est-ce que ça représentait. Ça ne représentait pas grand-chose, évidemment. C'était une petite solde, une solde minimale. Ils recevaient cette solde pendant qu'ils accomplissaient leur apprentissage dans l'atelier du palais auquel ils avaient été affectés. Une précieuse liste de ces artisans du palais datant de 1526 et donc du début du règne de Soliman le Magnifique a été publiée par un historien turc que tous les ottomanistes connaissent bien parce qu'il a eu une œuvre énorme et qu'il connaissait les archives ottomanes comme personne, Ismail Hakkı Uzunçarşılı. Eh bien, c'est Uzunçarşılı qui a publié cette liste et cette publication, parmi ses innombrables publications, a une place toute particulière parce que c'est sa dernière œuvre et même, nous rapporte-t-on, il est mort juste après l'avoir rédigée. Eh bien, cette liste donne métier par métier le nom, mais surtout ce que nous appellerions le CV de chacun des artisans des ateliers du palais. Et on apprendra ainsi qu'un certain Hadje Ibrahim, sa qualification de Hadje semble indiquer, puisque c'est habituellement le sens de ce titre, qu'il a, à un moment de sa vie, accompli le pèlerinage de la Mecque. Eh bien, ce Hadje Ibrahim, qui est manifestement, comme nous allons le voir, un vieux, voire un très vieux monsieur, est le chef des graveurs du sultan. Et on emploie pour désigner ces graveurs le terme de Kundekaran. Et il est le mieux payé de tous les artisans du palais. Ce vieux monsieur, ce maître, a en 1526 une solde de 21 aspres par jour. On est loin de l'aspre unique des débuts. 21 aspres par jour, ça fait quelque chose comme plus de 7500 aspres par an, ce qui est un revenu tout à fait appréciable. Eh bien, à l'origine, ce digne Hadje était un garçon chrétien, levé en Anatolie, dans le cadre du Defshirme, levé sous le règne de Mehmed II, c'est-à-dire de l'arrière-grand-père du sultan régnant. C'est pourquoi je dis qu'il s'agit en tout état de cause d'un vieux monsieur. En l'occurrence, il n'était pas devenu graveur immédiatement, directement après le Defshirme. Il avait d'abord été placé, comme beaucoup, ainsi que je le disais, parmi les jardiniers du palais, où il avait vraisemblablement donné satisfaction, puisqu'on l'avait fait passer ensuite dans le corps assez prestigieux des capuje, c'est-à-dire des huissiers ou chambellans du palais. Mais il devait surtout avoir au plus haut degré l'art de la gravure dans les doigts. Et cela finit par être su et reconnu. Et de ce huissier, de ce capuche du palais, on a fait un graveur et finalement le maître de l'atelier des graveurs. Ce même document est plus explicite encore dans le cas d'un autre vétéran, le fabricant d'arcs, cette fois. Sa spécialité, c'est de faire des arcs, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Youssouf Ivrania. Eh bien, lui aussi avait été, à l'origine, ramassé, comme on dit, dans le cadre du Defshirme, au temps lointain du sultan Mehmed II. Son nom, qui est en fait une sorte de nisba, d'Ivrania, indique qu'il venait à l'origine, qu'il avait été pris alors qu'il était un jeune habitant du bourg de, qui est appelé aujourd'hui, Vovarina, dans la région de Prizren, et de Pristina, c'est-à-dire au Kosovo. C'était un Kosovar chrétien. Le document ne précise pas quelle fut sa première affectation en tant que Hadjemi Olan. Il a ensuite suivi la voie normale des Hadjemi Olan en devenant janissaire. Et quand il devient janissaire, nous sommes sous le règne de Bayezid II, fils de Mehmed II et grand-père de Soliman le Magnifique. Mais, de même que le Hadje Ibrahim précédent, il quitte le corps des janissaires pour entrer dans les ateliers du palais. Et le texte dit expressément « Badehu sanat birleh meskur defterah ilhak olunmush sultan Bayezid Zamananda ». Par la suite, à l'époque du sultan Bayezid, il a été ajouté au présent registre, ce registre étant la liste des artisans en question, en raison de son savoir-faire. Cette liste de 1526 nous permet de relever la présence d'Hadjemi Olan ou d'anciens Hadjemi Olan dans 26 des 40 métiers qui y sont énumérés. Ce grand nombre d'ailleurs de métiers, de spécialités artisanales ne doit pas nous étonner puisqu'il est bien connu que dans les modes de production traditionnels, les métiers sont nombreux car ils sont toujours très spécialisés. on constate que la plupart de ces algémiolan, ainsi versés dans l'artisanat, et plus précisément dans les ateliers du palais, viennent de Roumélie, c'est-à-dire de la partie européenne de l'Empire. Mais ce n'est pas le cas de tous, nous avons vu que ce n'était pas le cas de Hadja Ibrahim, et d'autre part, cette prévalence de la Roumélie tient peut-être à la date relativement précoce de cette liste, puisque je vous répète qu'elle était de 1526. Il n'est peut-être pas entièrement fortuit que certains des métiers dans lesquels les adjémiolan sont au contraire absents correspondent à des spécialités du plus haut raffinement artistique. Et là, les recrutements, peut-on supposer, se sont faits d'une autre manière. Alors, qu'est-ce que j'appelle ces métiers du plus haut raffinement artistique? C'est le métier de peintre en particulier, de nakash, n'est-ce pas? Ces peintres qui illustrent par leurs miniatures les manuscrits des sultans, et c'est aussi le cas des mujellides, c'est-à-dire des relieurs. Eh bien, on constate, à la lumière de cette liste, qu'il n'y a guère d'anciens adjémiolan parmi les peintres et les relieurs. En revanche, ces garçons, qui sont donc des produits du Devshirmeh ou également de ce Pendjek dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire de la part du sultan sur le butin des razzias, nous reviendrons sur ces deux grands modes d'approvisionnement du sultan en jeunes esclaves, eh bien, donc, ces produits du Pendjek et du Devshirmeh, que sont les adjémiolan, sont attestés dans les métiers suivants. Pardonnez-moi ce qu'il peut y avoir d'un peu austère dans cette énumération, mais il me semble qu'il n'est pas sans intérêt de voir toutes ces spécialités artisanales dans lesquelles ces adjémiolan vont être formés et employés. J'ai déjà cité les fabricants d'arcs. Il y a de même les fabricants de flèches, qui ne sont pas les mêmes, les fabricants de limes, les fabricants de fourreaux, de rasoirs, de masses d'armes, de sabres, de tisseurs de bures, abayeux pafam, dit le texte, de tisserands de ces tissus précieux, de soie et brodés de fils d'or ou d'argent, que sont les kemha, c'est-à-dire les brocarts ou les lampas. On en trouve parmi les fabricants de tapis, les bonnetiers, les fourreurs, postin douzan, toute la terminologie de cette liste, comme d'ailleurs de la plupart des documents financiers de l'Empire ottoman est fortement iranisé. Et on en trouve également parmi les céramistes, les orfèvres et joailliers, les graveurs, Kunder Karan, que j'ai déjà cité, les graveurs sur pierre, qui sont une autre spécialité, les tailleurs de pierre, les chaudronniers, les serruriers, les damasquineurs. Dans tous ces métiers, on voit qu'il y a des adjémiolan. Et tout ce que j'ai pu dire des usages variés que le sultan fait ainsi de ses recrues montre bien qu'il s'agit d'une main-d'œuvre à sa discrétion, lui permettant de satisfaire à ses nombreux besoins. Et il y a là un fondement, je dirais, à une affirmation de Ghislain de Busbecq, je vais le citer une fois de plus, dans laquelle il ne se réfère pas expressément aux Adjemiolan, mais on peut penser que c'est bien à eux qu'il pense, ou au moins entre autres à eux qu'il pense, quand il écrit. Et même pour le compte de l'État, s'il faut bâtir, transporter, nettoyer ou démolir, les Turcs réalisent ces tâches grâce au travail d'esclaves. Ce caractère de masse de manœuvre, en quelque sorte, est confirmé par le fait qu'à des besoins urgents ou exceptionnels correspond une mobilisation massive des Adjemiolan disponibles que, le cas échéant, on retirera au poste auquel ils étaient précédemment affectés ou encore aux familles turques auprès desquelles ils faisaient, je reviendrai sur cette question, une espèce de stage pour se turquifier et s'islamiser, eh bien, d'urgence, on les enlevait des endroits où ils se trouvaient pour les concentrer sur des tâches qui, à un moment donné, devenaient prioritaires. Un incendie, se déclare-t-il à Istanbul, comme cela arrive souvent et avec de lourdes conséquences, eh bien, on fera aussitôt massivement appel aux Adjemiolan. Il en va de même si un chantier de construction exceptionnel est ouvert. J'ai déjà mentionné un peu avant la construction d'une prison en 1555, mais voilà un chantier beaucoup plus important et beaucoup plus prestigieux qui apparaît dans la documentation. Je veux parler de la construction entre 1569 et 1575 de la fameuse grande mosquée Selimiyeh, édifiée par Sinan à Edirne, et dont Sinan lui-même déclarait qu'elle était son chef-d'œuvre. Eh bien, un ordre de 1570, par conséquent émis dans la période de cette construction, commande à l'aga des Janissaires de faire venir de chez ces familles paysannes turques où ils servent actuellement comme garçons de ferme, 100 Olan, 100 garçons, afin qu'ils travaillent à la mosquée actuellement en construction à Edirne. Je traduis un passage de cet ordre. Moyennant quoi, ces garçons recevront désormais une solde, ce qui n'était pas le cas quand ils n'étaient que garçons de ferme chez ces paysans turcs, et il est recommandé à l'aga des Janissaires de ne pas prendre n'importe qui pour aller travailler au chantier de la mosquée. Il sélectionnera, nous dit le texte, nous dit le document, des garçons anciens, c'est-à-dire, le terme employé est le terme de esqui, c'est-à-dire vieux, ancien, et il faut entendre par là qu'il ne prendra que des garçons qui ont déjà passé plusieurs années chez les paysans turcs à s'endurcir et à apprendre le turc et les principes de l'islam. Donc, des garçons anciens et, d'autre part, ça c'est le grand mot, le mot-clé, des garçons yarar. Alors, comment traduire ce terme yarar qui est toujours employé dans de tels cas, des garçons capables, de bonne qualité, si vous voulez, pas des nullités, et pas des incapables. Donc, des garçons, il y a rare. Il devra faire une sélection. Et nous apprendrons un peu plus tard, par un ordre de juillet 1573, faisant état d'un rapport du chef des architectes impériaux, c'est-à-dire de Sinan lui-même, de Mimar Sinan lui-même, que certains des Adjémiolan ainsi réquisitionnés avaient fait œuvre de ferronniers sur le chantier. Des Murgilik Ishleyen Adjémiolan, dit le texte, et qu'on leur devait la fabrication des barreaux des fenêtres de la mosquée, ou du moins de certaines fenêtres. Penjere des Murlerin Ishleyu, n'est-ce pas ? Leur travail avait apparemment donné toute satisfaction au grand Sinan, puisque dans son rapport, il demandait une promotion pour ses garçons. Eh bien, si vous avez l'occasion, ce qu'il faut vous souhaiter, de visiter cette superbe mosquée à Edirne, regardez les barreaux des fenêtres et ayez une pensée pour nos amis, les Adjémiolan, qui les ont exécutés. Un autre exemple significatif vers la même date de mobilisation massive des Adjémiolan, mobilisation en catastrophe, ai-je envie de dire, est fournie par la crise, grave crise, consécutive à la défaite de Lépante, la fameuse bataille dans laquelle les Turcs ont été battus le 7 octobre 1571. Il s'agit, comme vous savez, d'une bataille navale, fameuse et hautement symbolique, puisque c'était le premier grand succès de la chrétienté, ou du moins d'une partie de la chrétienté, en fait, l'Espagne, Venise et le pape, contre les Turcs. Eh bien, au terme de cette bataille navale, les Turcs avaient vu leur flotte presque entièrement détruite. Cependant, le grand vizir Sokolou Mehmet Pacha engagea le pari de reconstituer entièrement cette flotte pour la belle saison suivante, c'est-à-dire dans un délai de 9 mois. Le pari fut tenu, ce qui permit au grand vizir de dire qu'à Lépante, le sultan n'avait perdu qu'un poil de sa barbe, tandis que, à peu près dans le même temps, il faisait allusion à la conquête ottomane de Chypre, le doge de Venise, lui, avait perdu un bras. Or, le pari de Sokolou Mehmet Pacha n'avait pu être tenu qu'en mobilisant les ressources de l'Empire, qui certes étaient grandes, et notamment ses ressources en hommes, c'est-à-dire en mettant les Adjémiolan au travail. Et on lit, dans un ordre adressé l'hiver suivant à l'aga des Janissaires, la livraison rapide des bateaux qu'il a été commandé de construire dans l'arsenal impérial, faisant partie des affaires importantes, des affaires prioritaires. Il, c'est-à-dire l'aga des Janissaires, doit envoyer à l'arsenal tous les Adjémiolan ayant des connaissances dans les métiers de charpentier, de calfa et les autres métiers en rapport avec l'arsenal. Là, poursuit le même ordre, on les fera travailler de sorte que les bateaux soient achevés rapidement. Une petite phrase qui en suggère beaucoup sur ce que pouvait être les méthodes de management, comme on dit, et le climat ambiant dans un semblable contexte. Et nous verrons la semaine prochaine d'autres tâches encore auxquelles les Adjémiolan pouvaient être affectés. Je vous remercie de votre attention.